fête de Matzmout qui s'approche, si j'avais le temps et le loisir, je pourrais vous expliquer en quoi Yom HaTzmaout est le couronnement de l'année juive et, d'une certaine manière, le couronnement de l'histoire du monde. Mais ça nous prendrait trop de temps, étant donné que vous avez certainement des questions après à poser, paraît-il. Et donc, je voudrais me concentrer sur quelques petits détails, simplement. Vous savez que le jour de Yom HaTzmaout est le jour, est une des journées dans le calendrier où l'on récite le Hallel. Les jours où on récite le Hallel, il s'agit en fait, d'après le Talmud, de 18 jours, c'est-à-dire du premier jour de Pessah, le jour de Shavuot, les 8 jours de Sukkot et les 8 jours de Hanukkah. Le Hallel qu'on récite à Rosh Chodesh n'est pas considéré comme un Hallel, ni le Hallel que l'on récite dans les 6 derniers jours de Pessah, étant donné qu'il s'agit d'un Hallel tronqué qui a des règles particulières et des raisons particulières d'exister, qui est en dehors de notre sujet. Quand on parle du Hallel, dans la Halakha, il s'agit du Hallel complet. Nous avons 2 journées qui ont été ajoutées de nos jours à cette liste, donc ça fait donc 20 jours maintenant. Nous avons Yom HaAtzmaout, le jour de l'indépendance d'Israël, et Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem. Pour chacun, il y a des raisons particulières. Ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le jour de Yom HaAtzmaout. Il y a tout un débat pour savoir si le Hallel à Yom HaAtzmaout doit être récité en entier ou comme à Rosh Chodesh, avec bénédiction ou sans bénédiction, avec est-ce qu'on dit le Hallel le soir ou seulement le matin, est-ce qu'on dit la bénédiction de Shehecheyanu ou non. La halakha telle que moi je la comprends et telle que je l'ai prouvée dans différents écrits que j'ai publiés, est que l'on dit le Hallel en entier, le soir et le matin, avec Bracha et Shehecheyanu. Je ne peux pas rentrer maintenant dans le détail des considérations halakhiques, simplement il faut expliquer quelle est la raison pour laquelle on récite un Hallel. Le Hallel n'est pas une petite affaire. Le Hallel ne se récite que, et ça je peux également amener des preuves à cela, lorsqu'il y a indépendance politique. C'est-à-dire, ça s'est passé 3 fois dans l'histoire. Une fois lors de la sortie d'Égypte, et donc toutes les fêtes de la Torah qui viennent commémorer la sortie d'Égypte, ce qu'on dit « Zecher Yetziat Mitzrayim » comporte un Hallel. La deuxième fois, c'est lorsque nous sommes arrivés à l'indépendance de l'Empire grec. Ça, c'est la fête de Hanouka, on récite le Hallel. Et la troisième fois, lorsque nous sommes libérés de la domination de l'Empire britannique, c'est de nos jours. Et donc, c'est le troisième événement historique pour lequel on dit le Hallel. Il y a cependant une petite différence entre les 2 premières occasions et la troisième. C'est que les 2 premières occasions de réciter le Hallel, c'est-à-dire l'indépendance politique du temps de Pharaon et après du temps d'Antiochus, c'était ce qu'on appelle une Géoula qui impliquait après un exil. C'est-à-dire après la libération d'Égypte, après la fondation de l'État du roi David et du roi Salomon, finalement il y a eu l'exil de Babylone. Et après la fondation du royaume asmonéen, des Maccabées, il y a eu la destruction du deuxième temple et l'exil de Rome. Et par contre, notre troisième rédemption, celle actuelle, celle que nous vivons actuellement, ne sera pas suivie d'un exil. C'est-à-dire, c'est une libération éternelle. Et donc, nous sommes dans un événement qui, du point de vue de son ampleur, dépasse de loin la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis d'un pays après 200 ans et pour une durée limitée. Là, nous sommes sortis d'une centaine de pays, après 2000 ans, et pour une durée illimitée. Donc, on peut dire que, du point de vue de l'ampleur de l'événement, proportionnellement, c'est incommensurable. Maintenant, je voudrais, avant de rentrer dans... Mais tout ça, évidemment, sont des considérations qui se concernent d'autres passages du Talmud. Je voudrais étudier avec vous un passage du Talmud, dans Sanhedrin, Daf Tzadik Dalet, Amud Dalet, c'est-à-dire la page 94a. Il s'agit ici de l'interprétation d'une particularité grammaticale dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, chapitre 9. Le marbe hamisra ul shalom en ketz, celui qui abonde en pouvoir et qui a une paix éternelle. Qui c'est qui abonde en pouvoir et qui a une paix éternelle? Le Mashiach. Le Mashiach, il a un pouvoir puissant, et il a une paix éternelle. Et le mot abonder, l'émarbé, celui qui abonde, est écrit avec un mem, n'est-ce pas? C'est écrit lamed mem, resh bet he, mais avec une particularité, c'est que le mem est un mem final, au milieu d'un mot. C'est le seul cas dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, où nous avons un mem final au milieu d'un mot. C'est un mem fermé. C'est comme si le mem devait être ouvert, et il s'est refermé. Alors, que ça veut dire quoi? D'abord, de qui s'agit-il? Quand on lit dans le texte de Yeshayahu, on voit bien que le roi dont il est question, ce n'est pas le Mashiach, c'est le roi Hizkiyahu, en français, Ézéchias. Qu'est-ce qu'il était ce roi? Ben, ce roi était roi de Juda, de la Judée. Et de son temps, il s'est passé un événement très important. La Judée était sous domination de l'Empire assyrien, c'est-à-dire la Judée n'était pas véritablement indépendante, elle avait un roi, mais elle était sous mandat assyrien. Elle faisait partie d'un vaste empire, et donc le roi Hizkiyahu, en fait, était un fonctionnaire de l'Empire assyrien. Un jour, le roi Hizkiyahu, encouragé par le prophète Yeshayahu, décide de ne plus payer le tribut, et il se révolte contre le roi d'Assyrie. Sanhérib, Sennachérib, on dit en français, Sanhérib envoie une armée en termes de l'époque pour assiéger Jérusalem. Et il y a une épidémie qui se déclare, un ange de Dieu est envoyé qui fait une épidémie dans le camp de l'ennemi, 185 000 morts dans le camp de l'ennemi. Sanhérib quitte le pays, la Judée retrouve son indépendance. Vous comprenez, l'événement est vraiment énorme. C'est une guerre mondiale dans les termes de l'époque. Et alors, à ce propos, le prophète dit « Les marbés à Misra ou Shalom al-Enketz » il parle du roi Hizkiyahu et dit « Il sera très puissant et il aura une paix éternelle. » C'est-à-dire que dans la vision du prophète, Hizkiyahu doit devenir le Mashiach. Ça aurait dû se passer à ce moment-là de l'histoire. C'est là que l'histoire aurait dû s'achever. « Amar Abitanchum » Excusez-moi. Rabbi Tanhum disait, Darash Rabbi Bar Kappara be Tzipori. Bar Kappara a enseigné dans la ville de Tzipori. Mipnema kol mem shebem tsa teva patuar. Pourquoi est-ce que tous les mêmes qui sont au milieu d'un mot sont ouverts? Veze satum, et celui-ci est fermé. Bikesh akadosh baruchu la asot Hizkiyahu Mashiach. Dieu a voulu faire de Hizkiyahu le Mashiach. C'est-à-dire, quand il écrit l'emmarbe, c'est comme si le prophète voulait dire la Mashiach. Mais que quelque chose l'a empêché de le faire. Sanhérib Gog ou Magog. Et Sanhérib, le roi d'Assyrie, aurait dû être le Gog et Magog de l'époque. Alors quel est le problème? Pourquoi est-ce que Hizkiyahu n'est pas devenu le Mashiach? Amra midatadi nifna kadosh baruch hu. La rigueur s'est présentée devant le Saint béni soit-il. Et a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Uma David melech Israël. Comment? David qui était roi d'Israël. Sheamar kama shirot vetishbachot lefanecha a récité plusieurs cantiques devant toi, c'est-à-dire le livre de Tehilim. Loa sito Mashiach, tu ne l'as pas fait Mashiach. Chizkiya sheasitalo kol hanisim alalu et Ézéchias à qui tu as fait tous ces miracles. Velo amar shira lefanecha et n'a pas récité un cantique devant toi. Taaseu Mashiach, tu vas faire de lui le Messie. L'Echach Nistatem, c'est pourquoi le même s'est fermé. C'est-à-dire, ce que l'on reproche à Hizkiyahu, qui l'a empêché de devenir le Mashiach, c'est qu'il n'a pas récité le Hallel le jour de son indépendance. Il aurait dû, à ce moment-là, réciter le Hallel. Il ne l'a pas fait. Il est disqualifié d'être le Mashiach. Bon. C'est un peu énorme. C'est-à-dire, pourquoi? Il y a ici deux questions qui me troublent. Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Le Hallel remet en jeu toute l'histoire. Incroyable. À part ça, pourquoi est-ce que Hizkiyahu n'a pas voulu dire le Hallel? Il aurait dû le dire. Il doit avoir une raison. Comment ça? Là, je cite la Guémara. Non, tout le monde est d'accord. Personne ne contredit ce texte. Ce texte est admis de tout le monde. Il y a un texte qui pose un autre problème, c'est que dans le traité de Pessahim, page 117a, il est dit que Chizkiyahou a dit le Hallel. Alors ça, c'est ça qui contredit. Mais si on voit bien la différence, on va expliquer également ce texte-là si on a le temps. Donc, il y a ici donc deux questions qui me préoccupent, peut-être la troisième aussi. La première, c'est pourquoi c'est tellement important de dire le Hallel, à tel point que ça remet en question tout le devenir de l'histoire, l'aboutissement de l'histoire. Et deuxièmement, quelle était la Svara, pour quelle raison Chizkiyahou n'a pas voulu dire le Hallel? Il devait avoir une raison. Et quelle que soit sa raison, la Guémara dit qu'il avait tort. Donc il faut comprendre pourquoi. Et troisièmement, comment comprendre ce texte de Pessahim qui dit que Chizkiyahou a dit le Hallel? Alors, tout d'abord, comprendre qu'est-ce que c'est que le Hallel? Le Hallel est un acte de reconnaissance, n'est-ce pas? C'est en fait, c'est une manière de dire merci. Alors, en hébreu, comment est-ce qu'on dit merci à Kadosh Baruch Hu quand il amène un événement de cette importance? On dit le Hallel. Et si on ne veut pas, on n'est pas Mashiach. À quoi sert le Mashiach, au fait? Hein? Il libère Israël. Bon, ça s'est passé. Hein? Il règne. Bon, Chizkiyahou régnait. Donc, de ce point de vue-là, c'est acquis. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il fait la jonction entre le divin et le monde. Oui, ça c'est la Torah aussi le fait. Il y a les Chachamim. Hein? Pour le monde entier, pour les goyim aussi. Pour les goyim aussi. On peut dire de manière générale, quand on dit « quand viendra le Messie », quand on dit cette expression-là, « quand viendra le Mashiach », qu'est-ce qu'on entend? Que tout ira bien, n'est-ce pas? Donc il doit réparer tout ce qui doit être réparé. Il y a des problèmes dans le monde, on attend du Mashiach de régler les problèmes du monde. Depuis quand est-ce qu'il y a des problèmes dans le monde? Depuis toujours? Vous êtes sûr? Depuis Caïn? Et avant il n'y avait pas de problème? La faute d'Adam, c'est pas mieux? D'accord, la faute d'Adam. Ah, d'accord. Quelle était la deuxième faute d'Adam? Tous les problèmes que nous avons, c'est depuis le péché d'Adam Harishon, n'est-ce pas? Quelle était la deuxième faute d'Adam? La première, je connais. Il a mangé le fruit de la connaissance. Le deuxième, c'est d'avoir accusé sa femme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est d'avoir été ingrat, alors que Dieu lui a donné une femme, il a fait le reproche. Il dit, la femme que tu m'as donnée, que tu as mise avec moi, elle m'a donné du fruit. C'est un acte d'ingratitude. Oui, mais Rachid dit, c'est ici que Adam Harishon est devenu coupable d'ingratitude. Kan kafar batova. Qu'est-ce qui est plus grave, le premier péché qu'on fait ou le deuxième? Le deuxième. Donc, quel est le péché qui est à l'origine de toutes les catastrophes que nous avons? L'ingratitude. Donc, c'est quoi le tikkun? La gratitude. C'est-à-dire, s'il n'est pas capable de gratitude, il ne peut pas devenir Mashiach. Comprenez? Et parce qu'il n'est pas... Il a manqué la flèche. Elle n'a pas eu lieu, quoi? Oui, elle a eu lieu au même endroit que la deuxième. Mais une première faute est toujours un peu involontaire, c'est un peu shogeg. Tandis que la deuxième, shalom, la deuxième, c'est beaucoup plus grave. C'est un acte de révolte. Maintenant, je voudrais m'expliquer. Cette histoire de gratitude ou ingratitude, ce n'est pas un détail. C'est quelque chose de très profond. La seule chose, c'est est-ce que Dieu peut faire tout à ma place? La réponse est que oui. Par exemple, si j'ai faim, il y a deux manières d'être rassasié. Soit manger, soit que Dieu, par un effet miraculeux, fasse que je n'ai pas faim. C'est possible. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il était pendant 40 jours sans manger, il n'avait pas faim. Et donc, Dieu peut tout faire à ma place. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire à ma place. C'est lui dire merci. C'est-à-dire quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous pouvez tout lui donner, sauf une chose, la reconnaissance. Donc on peut dire qu'une certaine manière, ce que le Créateur attend de la créature, c'est de se manifester en tant que reconnaissant. Et c'est là que se complète l'œuvre de la création. Donc on comprend la gravité de la réaction de Chizkiyahou Melech Yehuda. Chizkiyahou, roi de Juda, qui ne veut pas reconnaître. Maintenant, c'est pas toujours évident cette histoire. C'est-à-dire, imaginez par exemple que Dieu Voilà, je dis, voilà, oh là, ce que j'ai faim, j'aimerais bien avoir un sandwich avec de la dinde et des cornichons. Hein, voilà. Et puis brusquement, poups, ça tombe du ciel, sandwich, dinde et cornichons. Vous n'allez pas dire merci? C'est évident, vous allez dire. C'est-à-dire, quand le miracle est évident, il n'y a pas de ridouche, le fait de la gratitude. Quand est-ce que c'est l'épreuve? C'est quand on pourrait ne pas attribuer ça au Créateur. C'est là qu'intervient l'épreuve. D'accord? Or, à propos de la fondation de l'État d'Israël, vous avez deux réactions possibles d'ingratitude. Si vous voulez, même, on pourrait dire d'hérésie. La première hérésie est une hérésie de type ce qu'on appelle chiloni. L'hérésie chiloni consiste à dire, vous allez quand même pas vous imaginer que c'est Dieu qui a fondé l'État d'Israël. C'est évidemment le palmar. Ça, c'est la première hérésie, l'hérésie de type chiloni. La deuxième hérésie de type religieux. Elle dit, vous allez quand même pas vous imaginer que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fondé l'État d'Israël alors que c'est le palmar. La différence est dans l'intonation et dans le monde associatif qui est lié. Mais finalement, c'est la même chose. C'est, on peut avoir des raisons religieuses ou des raisons laïques de refuser le Hallel. C'est-à-dire de refuser de devenir le Mashiach. Vous avez compris? C'est-à-dire de faire réussir l'histoire. Maintenant, le problème ça c'est donc pourquoi c'est tellement important. Maintenant, je voudrais répondre à la deuxième question. Jusque-là, vous avez ça va, c'est clair ce que je dis là? Bon. La deuxième question qui se pose, mais pourquoi est-ce que Chizkiyahou, qui était quand même quelqu'un de bien, c'était un grand sadique, Chizkiyahou, pourquoi est-ce qu'il a refusé de dire le Hallel? C'était pas une délivrance complète, alors qu'est-ce que tu veux de plus que ça? La délivrance était complète, hein, mon vieux. Donc, tu donnes une des trois réponses que j'ai l'habitude de donner. Il est tout à fait possible, donc, que Chizkiyahou considérait qu'un événement politique n'a rien de saint. C'est-à-dire que Chizkiyahou était un roi très religieux. Donc, ce qui l'intéressait dans la vie, c'est la religion. Le politique, c'est secondaire. Peu importe qu'on soit indépendant ou pas, l'essentiel, c'est qu'on puisse étudier la Torah. C'est pas, la Gemara nous dit dans Psarim que Chizkiyahou, de son temps, il avait fait des écoles dans toute la terre d'Israël, et qu'il n'y avait pas un enfant, garçon ou fille, qui ne connaissait pas par cœur les règles de la pureté et de l'impureté. Donc c'était un grand tzaddik, très religieux, était très intéressé par son réseau de Talmud et Torah. Et donc pour lui, l'indépendance politique, c'est un événement secondaire. On peut dire à la limite même que ça pose des problèmes. L'indépendance politique est problématique, parce qu'elle nous impose des responsabilités qu'on n'aurait pas si c'était les goïms qui s'occupaient des autres problèmes. Donc on peut dire qu'il avait une motivation de type religieux. Il ne voyait pas dans le politique quelque chose de saint. D'accord? Ça, c'est une première possibilité. Et donc, si c'est vrai ce que tu dis là, ça veut donc dire qu'il avait tort. C'est-à-dire, si la Guémara dit que, à cause de ça, il n'est pas devenu le Mashiach, c'est-à-dire qu'on a tort de ne pas considérer que le politique a de l'importance. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a en français, je ne sais plus si se dit encore aujourd'hui, enfin, quand j'étais jeune, on parlait de ça, il y a ce qu'on appelle l'histoire sainte. Vous connaissez ces histoires? Traité d'histoire sainte. Vous connaissez pas? Non. C'est-à-dire, avant on disait que, d'ailleurs c'est un truc qui vient des chrétiens, que la partie de l'histoire qui est relatée dans la Bible, et de leur point de vue également dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle l'histoire sainte. Qu'est-ce qui est supposé derrière cette expression-là? C'est qu'il y a une histoire profane. Mais en vérité, si on lit bien le Tanakh, ce que le Tanakh nous révèle, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire que l'histoire politique, les empires, les ascensions et les chutes, tout cela fait partie d'une sainteté qui se manifeste. Et donc l'événement politique est central comme étant le lieu de la révélation du Créateur. Donc c'est la première raison qu'on peut donner pour Chizkiyahou, qui s'est trompé. Il a pensé que le judaïsme était une religion, alors qu'en fait c'est une nationalité. Et c'est pour cela qu'il a été disqualifié d'être le Mashiach. La deuxième possibilité est une possibilité de type cosmopolitique. C'est-à-dire, vous savez comment ça s'est passé le miracle? Le Midrash nous raconte ça de manière très figurée, très représentative. Chizkiyahou, désespéré par le siège, il a une armée puissante sous sa fenêtre, il est évident que le lendemain matin, s'il ne se passe rien de miraculeux, Jérusalem sera prise. Chizkiyahou va dans le temple, il prie, il rentre à la maison pour dormir. Vous rendez compte, le sang-froid de la personne. Il va pour dormir, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi j'ai fait tout mon travail, je n'ai plus de cavalier, toutes les places fortes ont été prises, je ne peux rien faire, je vais dormir, tu t'en occupes. Pendant la nuit, grand miracle, le lendemain matin, Chizkiyahou ouvre les fenêtres, il voit sous sa fenêtre 185 000 cadavres. Le prophète vient, il dit, alors tu dis le Hallel ? Je ne peux pas. Pourquoi il ne peut pas ? Parce qu'il est horrifié quand il voit la chute de ses ennemis. Parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est le père de tous, et donc il n'arrive pas à s'identifier avec la réjouissance de son peuple, parce qu'il tient compte de la souffrance de l'ennemi. Si c'est vrai ce que je dis là, et c'est vrai, parce qu'en plus de ça, on peut le prouver. Il y a d'autres textes, un texte dans Maseret Berachot qui dit que Chizkiyahou avait péché parce qu'il faisait les calculs de Dieu. Kafshe de Rahamana. Et c'est là le problème, c'est que pour être le Mashiach, il faut être solidaire de son peuple et pas solidaire de Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses problèmes à lui, si on veut. Du fait qu'il y a une souffrance métaphysique, du fait qu'une partie de sa créature doit disparaître dans les conflits. Mais ça concerne le Créateur. Si on est le Mashiach, c'est qu'on est solidaire de son peuple. Et donc, il devait se réjouir. Ça, c'est la deuxième raison qu'on peut invoquer pour le refus de Chizkiyahou. Oui ? Oui, c'est ça. Les six derniers jours de Pessah, d'après certains midrashim, on ne dit pas le halal complet, parce que non, parce qu'on tient compte de la souffrance d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne le dit qu'un jour. Mais un jour on le dit. Ça veut donc dire que si on tient compte de la souffrance, par exemple de nos ennemis qui sont tombés au combat, alors on ne doit faire le halal qu'un jour à Yom Ha'atzmaut et pas sept. D'accord. La troisième raison, c'est à mon avis que il y a un événement. Vous avez dit tout à l'heure que la délivrance n'était pas complète. Il y a un peu de ça. Du fait que, du temps du règne de Chizkiyahou, le royaume du nord a succombé sous les coups des Assyriens, et les dix tribus du nord ont été exilées. Et donc, Chizkiyahou se disait, à un moment où des juifs ont été évacués violemment de leur maison, je ne peux pas dire le Hallel. C'est-à-dire pour des raisons nationales, au contraire de fierté nationale, Chizkiyahou ne voulait pas dire le Hallel, et on voit que là aussi il a tort. C'est-à-dire, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on amène une raison pour laquelle Chizkiyahou ne voulait pas dire le Hallel, on s'expose à la critique de la Guémara qui dit oui, mais il avait tort. Oui, et ça veut dire que c'est dire que c'est parce que c'est une partie du peuple, c'était ça l'erreur, parce que les habitants d'Eret Israël, c'est eux le peuple. Par exemple, on fait le Hallel à Hanouka, parce qu'on a été libéré du joug des Grecs, alors que la majorité du peuple était encore en Babylonie. D'accord ? Donc, on voit ici quelque chose de très important, c'est que l'épreuve messianique, c'est le Hallel. Maintenant, je voudrais m'adresser quand même à la troisième objection, c'est dans Maseret Pessahim, il est dit en toutes lettres, dans la page 117a, que Chizkiyahou a dit le Hallel. C'est vrai que c'est une des opinions là-bas, c'est pas celle de tout le monde, mais est-ce que ça voudrait dire que c'est en contradiction avec le texte de Sanhédrin que nous sommes en train d'étudier? La réponse est que non. Vous savez que pour parler du Hallel, dans le Talmud, on emploie deux expressions différentes. Parfois on dit Hallel, parfois on dit Shira. Du point de vue de la Halakha, c'est le même texte. Quand on dit Shira, il s'agit du Hallel. Mais il y a quand même deux appellations différentes. En fait, si on voit ce que dit ici la Guémara dans Sanhédrin, la Guémara dit que Chizkiyahou n'a pas dit une Shira. Dans Pessahim, on nous dit qu'il a dit le Hallel. Ça veut dire qu'il a dit le Hallel pour s'acquitter de son devoir religieux. Le grand rabbinat d'Isaïe, du prophète Yeshayahou, a décrété qu'il fallait dire le Hallel. Alors il l'a dit, parce que c'était quelqu'un qui était en accord avec la halakha, Chizkiyahou. Donc il a accepté de dire le halel, mais le cœur n'y était pas. C'était pas une shira. Et c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de s'acquitter formellement de la récitation du halel, il faut également, disons, s'identifier avec, adhérer, si on dit, si on veut, avec le contenu du halel. S'il n'y a pas cette joie, alors c'est pas encore un monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé donc après cette histoire? Alors, il y a ici, dans la Guémara est très surprenante. Elle nous dit après, Miyad patra haaretz v'amra lefanav. Et alors, la terre a ouvert la bouche et a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Ani omeret lefanecha shira. C'est moi qui vais réciter un cantique, Tahat Sadikze, à la place de ce juste, Ve'asehu Mashiach, et faisant le Messie. Patra ve'amra shira lefanav. Et elle a récité, la terre a récité un cantique. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Mikenaf haaretz zemirot shamanu tsevil atzadik, des extrémités, des confins de la terre, nous avons entendu un cantique à la place du tzadik. Ah bon? Vous avez déjà entendu, vous, la terre, réciter un cantique? Si vous me dites oui, j'alerte. Hein, j'alerte les autorités nécessaires. C'est quoi la terre qui a récité un cantique à la place de Chizkiyahou? Vous savez pas? Ben c'est le peuple. C'est-à-dire, le roi, il avait ses hésitations, le peuple a dit le halel. Spontanément. Alors, ça aurait dû suffire. Amar Sara Olam Lefanav, l'ange préposé au monde, a dit devant Dieu. Ribono shel olam, maître du monde, tsivyono ase le tzadikze, fais la volonté de ce juste. Tu vois bien que la terre a récité le halel. Yatzabat kol ve'amra, une voix s'est fait entendre pour dire, razili, razili, c'est mon secret, c'est mon secret. C'est-à-dire, il y a ici un problème. Le roi n'a pas voulu dire le halel, mais le peuple l'a dit, ce ne serait pas suffisant. Et alors, la Guémara dit, oui, mais Dieu a dit, j'ai un secret. Amar Navi, et le prophète a dit, oili, oili, malheur à moi, admatai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand faut-il attendre? Yatzabat kol ve'amra, une voix s'est fait entendre disant, Bogdim Bagdou ou Veget Bogdim Bagdou. Les chaussettes de l'archiduchesse. Non. Bon. Les traîtres ont trahi. C'est une trahison de traîtres, leur trahison. Ça veut dire quoi? Amar Rava avait été Rabbi Yitzhak. Et alors Rava nous dit au nom de Rabbi Yitzhak, Adéat ou Bazouzé ou Bazouzé des Bazouzé. Jusqu'à ce que viennent les déprédateurs et les déprédateurs des déprédateurs. Ça veut dire que l'échéance de la Gioula est repoussée jusqu'à ce qu'il y ait des destructeurs, et encore des destructeurs de destructeurs. C'est-à-dire, deux temples doivent être détruits, et seulement après, ça marchera. C'est-à-dire, quoi, qu'est-ce qui marchera? Que c'est seulement après deux destructions qu'il suffira que le peuple dise le Hallel pour qu'il y ait quand même la Gioula, même si le dirigeant ne veut pas. D'accord? Bon. Et voilà. Ça, c'est, bon, ce texte continue un peu plus par la suite, mais ça, c'est un des textes fondamentaux qui vous explique la centralité du Hallel le jour de Yom HaAtzmaut. Alors, je crois que pour l'instant, on va s'arrêter là et laisser des places, paraît-il, vous avez des questions, j'ai entendu dire. Ça m'étonne. C'est une chose tellement évidente. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi est-ce qu'on doit dire le Hallel à Pessah, par exemple? Non. Hein? Pourtant, il y avait des grands hein, qui étaient contre le Hallel à Pessah. Datan et Aviram, par exemple. Oui, bon, alors... Quoi? J'ai rien compris. On a l'État d'Israël à cause de la Shoah? Ah bon? Je ne vois pas en quoi... C'est... Même si on admettait cette aberration, mais pourquoi ce serait une objection? Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas du tout le rapport. Tu pourrais dire que la sortie d'Égypte, tu peux dire que la sortie d'Égypte était le fruit d'une souffrance absolument terrible, d'un esclavage de 200 ans, dans lequel des enfants ont été enfouis dans les briques des pyramides, qu'il y a eu, d'après le Midrash, 4/5 des enfants d'Israël qui ont disparu dans les ténèbres. Et pourtant, on fait le Hallel. Je vois pas très bien le rapport. Mais à part ça, hein, il faut bien savoir que l'État d'Israël est fondé non pas à cause de la Shoah. L'État d'Israël a été fondé parce qu'il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu de nous ramener ici. De nous ramener ici, de rétablir notre indépendance. Et Akadosh Baruch Hu a accompli sa promesse. L'entreprise sioniste n'a pas commencé après la Shoah. L'entreprise sioniste a commencé avec le Gaon de Vilna et ses élèves et tout le reste. C'est arrivé également au Chovevet Zion et puis après à Herzl. Tout ça, c'est antérieur à la Shoah, je crois. N'est-ce pas? Je pense qu'en 1939, il y avait déjà 400 000 juifs en Eretz Israël. D'où est-ce qu'ils venaient, ces gens-là? D'accord? Le Gaon de Vilna disait d'ailleurs à ses élèves que lorsque commencera le retour des exilés, il faudra s'empresser d'amener 600 000 juifs à la fois en Eretz Israël, parce que sinon il y aurait des catastrophes terribles. Effectivement, à la veille de la catastrophe, il n'y avait que 400 000 juifs. Et lorsque l'État d'Israël a été fondé, il y avait 600 000 juifs en Eretz Israël. Donc le Gaon de Vilna avait raison. Oui, vous avez d'autres questions? Je vous ai dit, la question, est-ce qu'il y a intérêt à continuer le Homer, avec le deuil du Homer, etc., étant donné Yom HaAtzmaut? Bon, je voudrais d'abord, je profite de l'occasion, une personnalité rabbinique a dit une aberration l'année dernière, qu'il ne peut pas se réjouir à Yom HaAtzmaut parce que ça tombe pendant le Homer. Ce qui voudrait donc dire qu'on reproche à Akadosh Baruch Hu d'avoir fait l'événement au moment où il l'a fait. C'est-à-dire, on dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, tu sais, moi, à ta place, je n'aurais pas fait ça à ce moment-là, ça ne tient pas. Et donc ça m'embête bien, d'accord? C'est comme si quelqu'un, s'il avait un enfant pendant le Homer, il faisait pas la circoncision parce que ça tombe pendant le Homer, on peut pas faire de réjouissance. Vous comprenez l'absurde de la chose. Bon, mais en tout cas, le deuil du Homer, il faut savoir également son origine. Vous savez que dans la Guémara, on nous raconte que 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont disparu pendant cette période. Et la raison pour laquelle ils ont disparu, c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de kavod, d'honneur l'un envers l'autre. Mais la Guémara n'est pas très explicite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils sont morts? Alors, la Guémara dit qu'ils sont morts be'askara. Askara, on a l'habitude d'expliquer, c'est l'interprétation de Rashi, qu'il s'agit de la diphtérie, une maladie. Et donc, il y aurait eu une maladie qui aurait emporté les élèves de Rabbi Akiva. Je veux bien, mais simplement, il faut savoir que souvent la Guémara parle par allusion et que nous avons un document qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé historiquement parlant. Le document en question n'était pas connu de Rashi. C'est dans Igeret Rav Shira Gaon. Rav Shira Gaon était un des derniers géonymes de Babylonie et il avait chez lui des archives historiques de l'époque de la Guémara. Et c'est lui qui nous a raconté dans le détail comment est-ce que la Torah a été transmise de génération en génération. Et nous avons énormément de renseignements sur les yeshivot de Babel qui viennent de Rav Shira Gaon. Et dans Igeret Rav Shira Gaon, il dit en toutes lettres que les élèves de Rabbi Akiva ont été tués pendant le Shmad. Shmad, il s'agit de la guerre de Bar Kokhba. Dans tout endroit où les Chachamim disent Shmad, il s'agit de l'époque de cette guerre. Et donc ça veut dire qu'ils ont été tués au combat. D'ailleurs, on peut amener plusieurs preuves tirées de la Gemara elle-même, que les élèves de Rabbi Akiva étaient des soldats dans ces armées-là. Je n'ai pas le temps de le prouver maintenant. Si vous voulez, je vous amènerai à une occasion d'épreuve. Et donc, ça veut dire que cette période de deuil, qui est quand même une période lourde, 33 jours de deuil, vous vous rendez compte, c'est parce qu'il y a eu un échec dans la tentative de Rabbi Akiva et de Bar Kokhba de ramener l'indépendance d'Israël. Et donc, si... Pendant cette période, on est revenu à l'indépendance, il faut donc restituer à cette période son cachet originel. Le cachet originel, d'après le Ramban, c'est que c'est une période de joie. C'est comme un long Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot, dit le Ramban. Mais c'est devenu une période de deuil. Donc, en toute bonne logique, on devrait abolir. Mais, il faut pour cela l'accord des rabbins. C'est-à-dire, je ne pense pas que ça puisse se faire par une initiative personnelle. Mais si les rabbins se réunissaient et écoutaient mon cours, peut-être qu'ils pourraient le comprendre. Et donc, ça serait le moment de supprimer. Quoi qu'il en soit, on supprime les coutumes de deuil pour à l'approche de Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire qu'on se coupe les cheveux, on se taille la barbe, etc. En l'honneur de Yom HaAtzmaut. On peut faire même également des mariages. Je sais bien que tout ce que je dis là est controversé, mais je suis prêt à soutenir les attaques halakhiques et amener les arguments pour. Oui. Y aurait-il encore des questions? Ah, c'est contraire à ce que j'ai dit là. Oui, c'est-à-dire tu as amené ici une opinion rabbinique qui dit le contraire de ce que je dis. C'est nouveau? Dans tout halakha, il y a des opinions différentes. D'accord. Je tiens à rappeler par exemple que se raser la barbe pour Yom HaTzmaout a été décrété entre autres par le Rav Yitzhak Nissim, qui était grand rabbin d'Israël et qui était le maître du Rav Mordechai Eliyahu, au passage. Ça ne veut pas dire que le Rav Eliyahu est d'accord, mais quand même, c'est-à-dire il y a des autorités importantes quand même. Ainsi que le Rav Tzvi Pessah Frank, qui était grand rabbin de Jérusalem, et tant d'autres. C'est tout? Vous n'avez plus de questions? Tout est clair? C'est génial. Ah oui, il y a une question que je ne vous ai pas autorisé à poser, c'est comment les Gdolim ne savent pas tout ça? Ou bien, il y a des grands rabbanim qui ne sont pas d'accord. C'est ce genre d'argument est un très mauvais argument qui n'est jamais employé dans la halakha. C'est-à-dire, quand on veut amener des arguments pour ou contre dans une halakha, on voit les arguments eux-mêmes. Quelle que soit la personne qui l'a dit, que ce soit une grande personne ou une petite personne, ce qui est important, c'est si c'est la vérité ou pas, et non pas quelle est la grandeur de la personne qui l'a dit. Voyez-vous, ça c'est une chose bien connue en halakha. Aujourd'hui, on a oublié comment est-ce qu'on étudie la halakha, donc ces choses-là sont oubliées. C'est pour ça qu'on amène ce genre d'arguments que je ne vous ai pas autorisé à présenter. Très bonne question. La halakha se décide par majorité et minorité, d'après le Rav Tzvi Hirsch Chayut, un des grands maîtres du XIXe siècle, quand il y a réunion des chachamim dans un même conseil, par exemple au Sanhédrin ou dans un tribunal. C'est-à-dire, si un Sanhédrin se réunit, la halakha sera décidée à la majorité dans le Sanhédrin. Mais si chacun de son côté a décidé pour lui-même, quelle que soit la majorité ou la minorité, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'on attend pour se réunir? C'est une très bonne question que je pose moi aussi. Quoi? J'ai du mal à comprendre tes questions, elles sont trop sophistiquées pour moi. Vas-y, répète. Ah, tu parles d'autre chose. Tu parles de l'opinion qui dit que l'État d'Israël était interdit, qu'il était interdit de fonder l'État, oui? Oui, non, bien sûr, non. Ça, est-ce une réalité? Non. Il y a des arguments antisionistes. Ça existe. Il y a des arguments antisionistes. Il faut les étudier. Par exemple, les arguments du Vayoel Moshe, par exemple. D'accord? Qui était c'était un très grand rabbin, le Vayoel Moshe, le rabbi de Satma. Simplement, il avait tort. Ça ne veut pas dire que ces arguments ne doivent pas être étudiés et profondément et voir dans quelle mesure on doit en tenir compte. D'accord? Comme tout débat dans la halakha. La chassidoute. Tu parles de l'opinion des Loubavitch. L'opinion des Loubavitch est que le Mashiach ne viendra que lorsqu'il y aura un bac rabat dans chaque îlot du Pacifique, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Il y a un texte intéressant dans le Yalkut Shimoni à ce propos, le Midrash Yalkut Shimoni, qui dit que lorsque viendra le Mashiach, et qu'il sonnera du shofar, et sur le toit du Beth Amikdash, et dira aux enfants d'Israël, humbles juifs, le temps de votre libération est arrivé, Igia Sheat Geulatrem. Alors il y aura des rabbins qui viendront voir le Mashiach et qui lui diront, c'est pas possible, parce que nous n'avons pas encore été dispersés dans tous les pays de la terre. Et le Mashiach viendra voir Akadosh Baruch Hu, il dira, ils ne veulent pas m'écouter. Il dira, réponds-leur que je les dépasse. Je les enjambe. Kol dodi inezeba, la voix de mon bien-aimé arrive. Medaleg ale harim, elle enjambe, elle sautille au-dessus des montagnes. Mekapetz ala gevaot, il enjambe les collines. Shekevan she et chafetz egaolrem, parce qu'il veut vous libérer. Et no, mabit becheshbonotechem, il ne tient pas compte de vos calculs. Et après, le Midrash explique qu'il suffit qu'il y ait un juif qui soit arrivé à l'extrémité de la terre et un autre à l'autre extrémité pour que ce soit considéré comme dispersion totale. Soit dit en passant, dans le Yaïsi, il faut bien comprendre quand tu parles des différentes opinions haridites, c'est pas une seule opinion. il y a toute une gamme d'opinions. Par exemple, la position du rabbi de Satmar est fondamentalement différente de celle du rabbi de Lubavitch. Je vais t'expliquer pourquoi. Les deux sont d'accord pour dire qu'il était interdit de fonder l'État d'Israël. C'est-à-dire tous les deux, aussi bien le rabbi de Lubavitch que le rabbi de Satmar, pensent que les trois serments interdisent de fonder l'État. Avec une petite différence, c'est que le rabbi de Lubavitch pense qu'une fois qu'il est fondé, il faut le soutenir. Et le rabbi de Satmar dit qu'une fois qu'il est fondé, il faut prier pour sa destruction. D'accord ? Mais les deux sont d'accord pour dire que c'était interdit de fonder l'État. Ils se basent sur le texte des trois serments. Mais il y a une différence fondamentale très importante pour la nature de la Géoula. Pour le rabbi de Satmar, la Géoula, la délivrance, est un événement politique, comme pour le Rav Kook. C'est-à-dire, le Mashiach, c'est un homme politique qui fonde un État. Simplement, d'après le rabbi de Satmar, c'est interdit de fonder un État tant que cet homme-là n'est pas arrivé. Mais la nature de la Géoula, c'est l'indépendance politique. Par contre, d'après le rabbi de Lubavitch, la Géoula est un événement mystique. C'est un événement de rayonnement. C'est-à-dire, il viendra une personnalité telle que tout le monde fera ce qu'il dit parce qu'il aura un rayonnement spirituel intense. Et donc la dimension politique sera subsidiaire, sera auxiliaire à sa personnalité. Que c'est contraire au texte, ça, je suis d'accord avec toi. D'accord ? Mais il y a toute une manière allégorique d'interpréter les textes qui a été développée dans le chassidisme de Lubavitch, et ça c'est très différent. D'accord ? Mais non, ça c'est ces deux opinions-là, aussi bien celle du rabbi de Satmar que celle du rabbi de Lubavitch, qui disent que la fondation de l'État d'Israël était interdite, est une opinion minoritaire chez les Haredim. Il faut savoir, l'opinion majoritaire chez les Haredim, antisionistes, c'est que l'État d'Israël n'est pas interdit, on a le droit de le fonder. L'histoire des trois serments, ça ne tient pas. Par exemple, c'est l'opinion du Chazonish ou du Rav Shach, etc. Mais que cet État est disqualifié pour d'autres raisons. D'abord parce qu'il est laïque et parce que l'intention des fondateurs du sionisme était de lutter contre la religion. C'est pour ça qu'ils ont fait un État. Et donc cet État est disqualifié. Mais on a le droit d'être membre de la Knesset, etc., pour sauver ce que l'on peut. D'accord ? Ça, c'est l'opinion majoritaire qu'il y a aujourd'hui chez les Haredim et qui considère que l'intention du fondateur a quelque chose à voir avec la nature de l'État. D'accord ? Ce qui est une erreur, mais enfin, ça tient pas la route, je suis d'accord. Mais non, ma position est un peu trop facile. Étant donné que je suis là sans qu'il y ait un Haredi à côté de moi, c'est peut-être injuste. Mais c'est comme ça que c'est présenté de leur point de vue. Là, tu rentres dans un débat. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est que tu admets la thèse fondamentale des Haredim, mais tu dis qu'ils se sont trompés sur les faits. Ça veut dire que, pour les Haredim, c'est très important. Non, je t'explique. C'est pour toi. C'est-à-dire, si c'était vrai que Herzl a fondé l'État pour christianiser le peuple juif, alors cet État serait, par exemple, serait impur. Mais comme c'est pas vrai, puisque tu dis que c'est pas vrai que Herzl voulait ça, donc ça va. Moi, je dis que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ce que j'ai... Ah, d'accord. Que ça tient pas debout, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas chez certains sionistes cette idée-là que la fondation de l'État d'Israël, c'est une laïcisation du peuple juif, sans aucun doute. Par exemple, c'est ce que pensaient des gens comme Ben Yehuda, par exemple, ou même comme Ben Gurion, d'une certaine manière. Mais c'est pas ça qui est important. C'est-à-dire, peu importe la motivation de celui qui fait l'acte historique est là. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu amène la Géoula par les manières dont il veut et les personnes qu'il veut. Donc, peu importe quelle a été la motivation consciente, ni de Herzl, ni de Ben Gurion, on s'en fiche pas mal. Oui, c'est vrai. Non, je veux bien. Ce que tu dis là, il y a souvent également une position qu'on voit chez les Haredim qui s'approche du sionisme, qui considère que les événements que nous vivons sont des événements très importants, mais que tout cela relève de la partie cachée de la Torah et pas de la partie révélée. Et donc, comme ça relève de la partie cachée, on ne peut pas en tenir compte au niveau de la halakha. D'accord ? C'est comme ça qu'ils affirment. Il y a tout un problème là-dedans, et ça c'est le point sur lequel les choses ne sont pas mises au clair. Qu'est-ce que la tradition entend quand elle parle de Géoula? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut bien savoir, et ça c'est une chose qui n'est pas toujours bien mise en évidence, ce qu'on appelle la Géoula, c'est le retour de l'indépendance. Tout le reste est enclenché par ce retour. Le fait que le Beth Amikdash sera reconstruit, qu'il y aura la prophétie, qu'il y aura la paix universelle, etc., etc. Tout ça, ce sont des conséquences de la Géoula. Mais l'événement qu'on appelle Géoula, c'est le passage de la servitude à l'indépendance. Et par exemple, il y a un peu moins de 2000 ans, il y a un juif qui est venu voir les rabbins du Sanhédrin et qui leur a dit, vous autres les rabbins, les pharisiens, comme on les appelait à l'époque, vous attendez que le fils de David vienne pour vous libérer de la domination des Romains. Mais moi, je suis venu pour sauver les âmes. Alors les rabbins lui ont dit, bon, c'est ce que tu crois. C'est-à-dire, ils lui ont dit, c'était une vanne d'ailleurs, c'est très sympathique ton système, mais c'est en dehors du judaïsme. C'est comme ça que le christianisme s'est séparé du judaïsme, parce qu'il a refusé d'introduire la dimension politique dans la Géoula. Vous comprenez? Et ça, c'est une chose qu'il faut mettre en évidence aussi. Maintenant, vous avez un autre argument qui est, oui, d'accord, on est d'accord, c'est vrai, la Géoula, c'est l'indépendance. Mais nous ne sommes pas vraiment indépendants. Puisque les États-Unis nous imposent leur opinion, qu'il y a des pressions politiques, qu'il y a la guerre avec les Palestiniens, c'est pas vraiment une indépendance. D'accord? C'est un argument intéressant, parce que ça se rapproche d'abord de mon discours. Et alors, justement, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est l'indépendance. Il y a des règles dans la halakha pour ça. Bien sûr. L'indépendance n'est pas l'autarcie. Et l'autarcie, c'est un système dans lequel on n'a rien à dire au reste du monde. Ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu d'État dans l'histoire qui était entièrement autarcique. Ça n'existait pas. Même le roi Salomon, qui était un grand roi et qui, d'après tout le monde, est considéré comme un roi d'après la halakha, eh bien, l'or lui venait de Ophir et les chevaux venaient d'Égypte. Et les aromates venaient de la reine de Saba. Donc, il avait besoin, il était dépendant économiquement et même politiquement d'autres. Ce qu'on appelle un État en hébreu, c'est malchut, et il y a pour ça des conditions dans la halakha qui sont deux éléments. C'est-à-dire ce qu'on appelle le monopole de la force armée et le monopole de la monnaie. Dès qu'il y a une entité qui a le monopole de la force militaire et de la monnaie, c'est considéré du point de vue de la halakha comme une malchut. Et d'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef, qui n'est pas un grand sioniste, comme vous le savez, quand même affirme qu'il est interdit de tromper le fisc, de ne pas payer ses impôts, en vertu du principe d'Ina, des Malchuta, d'Ina, que la loi du roi, c'est la loi. Il parle là-bas de l'État d'Israël. D'ailleurs, il se base, pour expliquer cette halakha, sur un texte du Rav Kook, qui le dit expressément que tout pouvoir politique nommé par la collectivité d'Israël a le statut de Malchut du point de vue de la halakha. Comment? Dans le territoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu fais une armée rivale à l'État d'Israël, une armée alternative à Tsahal, tu vas en prison. C'est ça? Si tu fais une monnaie alternative au shekel, tu vas en prison. Hein? Les forces quoi? C'est nos ennemis, c'est autre chose. C'est-à-dire, les Palestiniens n'ont pas formé une armée israélienne, je crois. Ils ont fondé une armée ennemie, bien sûr. Tout pays qui est en guerre a des ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas indépendant. Le problème, c'est de savoir où tu veux passer la frontière, mais peu importe. Non, mais le monopole légal... Non, attention, quand je parle de monopole, le monopole légal de la force militaire, c'est uniquement l'État d'Israël en Israël. D'accord? Ce n'est pas... Il n'y a pas d'autre armée qui a le droit légal d'exister. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes en pleine indépendance. Oui, par l'entité souveraine et internationale. D'ailleurs, la communauté internationale reconnaît la légalité de l'État d'Israël, ne reconnaît pas la légalité d'une autre armée. Oui. Alors, donc, du point de vue de la halakha, nous sommes engagés donc par l'autorité militaire ou étatique, etc. Évidemment, comme toute chose, ça a ses limites. Comme, par exemple, je dois le respect à mon père, mais si mon père me dit de faire une avéra, je ne la fais pas. D'accord. Bon, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Et à bientôt, frère Samuel.